Vous écoutez
RMC.
RMC.
Et RMC, on a eu un peu de problème. Hein. Et aujourd'hui, je pense que c'était bien, 20 ans d'une émission, et ça me fait plaisir. Il y en a fait, c'est 21 jours, 8 jours. C'était boum. Verratti pour moi aussi. Il y a quelque chose de différent. C'est pour ça que je me fâche avec Daniel. Honnêtement, les Qataris, à côté de certains présidents, sont des anges. Et tu ne fais pas d'erreur, tu as dit des 3 bêtises déjà ce soir. Pelé veut venir à Paris. Beckham veut venir à Paris. Oui. Messi veut venir à Paris. Les grands joueurs veut être à Paris.
Choisir, exactement. Je vais choisir mes Verratti, Pastore, putain, c'est...
RMC, l'afterfoot.
Christophe Plenet.
Avec David Guzman, avec Maxime Chano, l'afterfoot en direct sur RMC, en direct également sur Afterfoot TV et en direct bien sûr sur la chaîne YouTube de l'After. Nous sommes ensemble pendant une heure encore jusqu'à minuit. Le 32-16 est ouvert bien sûr, le numéro WhatsApp de l'After également pour vos messages, le 06 12 424 424. On va parler à présent dans l'After des Girondins de Bordeaux dont l'avenir a encore connu des rebondissements ces dernières heures. Pour rappel, à quelques semaines de la reprise des championnats, on ne sait toujours pas dans quelle division joueront les Girondins l'an prochain, puisque le club risque l'exclusion des compétitions nationales et même la liquidation judiciaire. Pour en parler, pour résumer l'actualité bordelaise, j'accueille avec joie Corentin Roland. Salut Corentin.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Alors hier soir, on a appris que le CNOSF avait rendu un avis défavorable sur la demande des Girondins de réintégrer les championnats nationaux.
Oui, c'est au départ un avis à titre consultatif. C'est important de le préciser, donné par le Conseil National Olympique et Sportif Français, le CNOSF. Il va dans le sens de la décision prise par la DNCG d'exclure Bordeaux des championnats nationaux en raison donc de leurs difficultés financières. Malgré le départ de Gérard Lopez, malgré l'arrivée du fonds d'investissement britannique Sparta Capital et malgré aussi l'annonce de ce nouvel investissement d'avoir réuni 10,6 millions d'euros pour éponger les dettes et financer la prochaine saison. Aujourd'hui, la Fédération Française de Football s'est rangée derrière la recommandation du CNOSF. Et la situation sportive, pour le moment, c'est donc que Bordeaux est inscrit en Régional 1, qui est donc le sixième étage du foot français.
Et Corentin, cet avis du CNOSF a bien sûr généré énormément de réactions aujourd'hui.
Oui, d'abord celle du club étonné. Je cite le communiqué d'aujourd'hui de cette orientation, alors que des garanties financières particulièrement importantes ont été apportés et le risque a été mentionné clairement dans ce communiqué, celui d'une liquidation judiciaire, tout simplement. Le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, s'est entretenu en parallèle avec Philippe Diallo. Il a appelé sur Sud-Ouest les instances françaises à la responsabilité. Et le mot de la fin pour le futur président du club, Dominique Delport, qui a annoncé à nos confrères de l'équipe et Sud-Ouest déposer un autre recours, un référé au tribunal administratif dès ce lundi, avec l'espoir que celui-ci reconnaisse le sérieux du plan de reprise de Sparta Capital. Là où le CNOSF ne pouvait s'appuyer en réalité que sur les éléments fournis par la DNCG. Mais ça fait encore une procédure, alors qu'on va le dire, mais dans le calendrier officiel, la reprise bordelaise en R1, elle est prévue dans deux semaines, le 29 août.
Merci beaucoup Corentin pour le rappel des faits. Supporters bordelais, n'hésitez pas à composer le 32-16. David, j'ai envie de t'entendre en premier. Tu connais parfaitement le dossier de Bordeaux.
Mais il était très bien déjà résumé par Corentin, mais en fait, si tu veux, moi, je suis très partagé sur cette décision. J'ai ma casquette de juriste et ma casquette de banquier capitaliste pro-business. Ma casquette de juriste me dit que la décision du CNOSF est juridiquement difficilement contestable. Pourquoi ? Car le CNOSF se doit et tenu de refuser tout élément nouveau après la DNCG d'appel. Et il est vrai, et c'est incontestable, que la structure financière de l'acquisition a été modifiée entre l'appel et la présentation au CNOSF. Pourquoi ? Car il y a tout simplement des nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Donc, oui, juridiquement, le CNOSF a pris une décision ou a interprété le texte de façon défavorable aux Girondins, mais de façon justifiable. Oui, Sparta Capital aurait pu être prêt avant. On peut leur faire le procès de se dire, de toute façon, vous n'aviez qu'à être prêt, vous n'aviez qu'à pas étendre les délais. Si vous aviez réuni les fonds en appel, nous n'aurions pas cette discussion. Mais après, j'ai aussi envie de prendre un peu de recul, et c'est pas du tout parce que je suis supporter des Girondins de Bordeaux. J'aurais dit exactement la même chose pour l'Olympique de Marseille, pour Étang-Courneuville ou pour l'Olympique de Saint-Quentin, pour n'importe quel club français, j'aurais dit exactement la même chose. C'est que maintenant, pour une interprétation défavorable mais juste du texte de loi, on va empêcher un investisseur dans le foot français en 2026, où on a un besoin impérieux de fonds, un investisseur qui a garanti, pas 10 parce que tu as raison, la saison prochaine est garantie, mais plus de 20 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a 3 saisons, 3 années d'exploitation qui sont garanties, puisque en plus des 10 millions d'euros qui sont en séquestre, il y a une lettre de crédit qui est émise par la banque JP Morgan, qui est une banque de ce qu'on appelle de tier 1, donc de meilleure qualité, pour financer 3 ans d'exploitation. Donc d'un côté, il y a le texte de loi que je comprends, et d'un autre côté, on va refuser à des investisseurs, on va peut-être punir Gérard Lopez à travers Sparta Capital, alors qu'il y a plus de 20 millions d'euros qui sont sécurisés, alors que pour une fois, il y a des investisseurs en quatrième division qui veulent investir. Alors ok, il y a le texte de loi, et le texte de loi, je ne le conteste pas. Mais si on prend un peu de recul, si on regarde un peu, si on élargit la focale au contexte économique du football français, on a vraiment envie de laisser des investisseurs dehors. Et je vais même aller plus loin, et je vais en terminer par là. Moi, tu te souviens, Christophe, je l'avais dit dans l'after, je suis même sceptique sur la réussite sportive de leur projet. La data en N2, je suis pas forcément convaincu. La première sortie sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup plus été convaincu par l'interview qu'il vient de donner à Sud-Ouest que par sa sortie sur les réseaux sociaux. Je suis un peu sceptique sur la pertinence de leur projet. Mais qu'on leur donne leur chance et qu'on ne juge pas Sparta Capital à travers la lorgnette Gérard Lopez, parce que ce sont deux projets totalement différents. Donc voilà, juridiquement ok, d'un point de vue économique, casquette de banquier un peu moins.
Bah écoute, je pense que tout a été bien résumé par David notamment, hein, qui saigne pour son club actuellement.
Je garantis que je l'aurais dit pour n'importe quel club.
Honnêtement, je sais pas quoi dire. Bon, j'ai juste vu que Rio Mavuba avait quitté le navire, hein, pour potentiellement s'engager avec le centre de formation du LOSC. C'est un retour pour lui du côté de Lille. Mais c'est vrai que ce qui se passe à Bordeaux, c'est vraiment. J'ai parlé de l'Olympique de Marseille hier et de Muppet Show. Bah, écoute, on en est pas loin aussi, hein, côté bordelais. Alors, il faut savoir que Gérard Lopez, tu sais, il habitait à Los Angeles et je le voyais.
Il habite un peu partout, hein.
Ouais, mais en tout cas, il est luxembourgeois en plus comme moi et il habitait du côté de Los Angeles, donc il venait souvent voir nos matchs et il était assis comme un pacha au stade, c'était exceptionnel, alors que le club de Bordeaux, ah ça je sais pas, il est toujours installé à côté de la buvette en plus,
sur 10 ans,
club,
non, il payait 10%
alors
sur 10
que
ans,
le club de Bordeaux était en train de couler, il était en train de boire ses bières, ah, c'était fantastique.
Là, vous pouvez aller voir d'ailleurs nos auditeurs, il y a un site internet qui s'appelle GL27, ouais, où il fait du buggy dans le désert, ouais, ou alors en fait, bien évidemment, il a attendu le dernier moment parce qu'il voulait pas que les gens réussissent après lui pour annoncer, d'ailleurs c'est aussi lié à ça les difficultés de Sparta Capital. C'est qu'il a attendu le dernier moment pour s'asseoir sur sa clause de retour à meilleure fortune, son compte courant d'actionnaire. Mais là, maintenant, il s'est lancé dans le buggy. Et je vous conseille d'aller voir la partie autobiographie de son site. Tu fermes les yeux, t'as l'impression que c'est Enzo Ferrari.
Allez, on accueille Marc, supporter des Girondins, qui a composé le 32-16. Salut Marc, bienvenue dans l'After.
Bonsoir messieurs.
Salut Marc. Salut Marc. Ça va très bien. Et toi, comment tu vis ces moments très compliqués pour ton club?
Oh, je suis assez blasé, mais je crois que ça fait un long moment que je suis blasé. J'y crois plus depuis la fin de saison. Je pense que c'est trop long. Comme vous l'avez dit, Lopez, il a mis 3 plombes à t'asseoir sur. J'ai l'impression qu'il attendait le dernier moment, mais j'ai l'impression qu'on attend toujours le dernier moment depuis. C'est quand que Lopez est arrivé? 2018, un truc comme ça?
Non,
2021. 2021, voilà.
Je sais
même plus, c'était il y a longtemps.
Bah, ça paraît long, je sais.
Ouais, il y a de la grosse avant et compagnie. Mais en fait, j'y crois plus trop. Donc en fait, le CNOSF a donné un avis négatif. Donc la SFF n'a pas envie de revenir sur un truc qu'ils ont déjà dit. À chaque fois, les autres clubs râlent en disant Bordeaux est protégé. Ça va encore partir en administratif, mais ça devient chiant. J'ai envie de dire, arrive un moment, faut aussi que les choses se passent en temps et en heure. On est toujours au dernier moment, toujours à la limite. Les championnats reprennent dans une ou deux semaines. Ça devient du grand n'importe quoi. Donc à un moment, il faut aussi prendre des décisions. Et quand on n'est pas à l'heure au rendez-vous, on ne peut pas toujours espérer le dernier recours qui nous sauve. Alors c'est catastrophique, parce que ça veut dire qu'il y a des employés qui vont finir encore. On a encore des gens qui vont pas de leur taf, des journalistes qui vont pas de leur taf. On va avoir un stade qui va arrêter sur le dos de la municipalité, de la communauté.
En R1, moi, je pense que la municipalité peut faire un geste et laisser jouer. Ça a déjà été fait ailleurs et laisser le club jouer gratuitement. Notamment pour régler la question du conflit entre supporters.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est le stade. C'est le stade qui coûte une blinde à la collectivité. Ouais,
de toute façon, R1 ou N1, de toute façon,
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux plus potentiellement te dire, allez, National, ça remontera. Là, tu redescends encore plus bas. Combien de temps tu vas mettre pour monter? T'as un stade qui va servir à que dalle parce que même le rugby veut pas y jouer. Voilà. Mais on peut pas. Enfin, moi, je suis à la place de la FFL, je vais pas toujours dire oui, mais c'est Bordeaux. Bordeaux est grandi, etc.
Mais Bordeaux a pas été persécuté du tout, là. C'est juste une interprétation rigoriste de la loi. Mais la loi a été correctement interprétée.
Et David, ma question, est-ce que la donne aurait été différente si Bordeaux était monté en Ligue 1 et notamment ce qui s'est passé avec l'arrêt de match contre Rodez?
Bah après, en fait, si tu veux, tu sais, il fallait gagner par 5 buts d'écart pour monter. Après, c'est toujours facile, en fait, si tu veux, de refaire l'histoire. Est-ce qu'en Ligue 1, tu sais, maintenant, t'as plus énormément de droits télé. Mais après, tu peux te dire que le club aurait été plus attractif, que Lopez aurait pu attirer des investisseurs minoritaires. Mais surtout, Marc, est-ce que toi, c'est une question que je vais te poser, moi, ce qui me fait encore plus peur que la R1, c'est la R1 sans projet défini et précis de reprise. C'est-à-dire que moi, en tant que supporter des Girondins, je ne sais pas si tu partages mon point de vue, je m'en fiche de repartir en R1. Mais il faudra avoir en R1 une figure économiquement et sportivement et politiquement incontournable. Et à Bordeaux, nous n'avons ni Marc Keller, ni Thierry Gomez. À chaque fois que le club est vacille, nous avons toujours les mêmes personnes qui veulent être toujours sur la photo, sans oseille. Et moi, c'est de ça que j'ai peur. C'est que même en cas de descente en R1, j'attends toujours celui qui ralliera tout le monde à sa cause et qui sera incontournable pour reconstruire.
J'ai envie de te faire un parallèle. On n'a pas besoin de millions, pas besoin de 100 millions pour fonctionner aujourd'hui au Girondins de Bordeaux, surtout si on repart à zéro. Il y a un club de rugby qui marche assez bien en basant son projet sur le local et avec des investisseurs locaux, etc. Peut-être qu'il va falloir aussi regarder de ce côté-là et voir ce qui a marché, parce que je me souviens d'une époque où Dacosa et puis ensuite Monsieur Gérard Lopez rayonnaient de Marty, de son modèle économique. Enfin, s'il y en a un qui marche aujourd'hui en termes de modèle économique, c'est celui-là. Donc, il va peut-être falloir se dire que, bon, tant qu'on n'est pas en Ligue 1, ça sert à rien de voir les 60 millions de budget et repartir en disant, plus travailler avec le local, parce que moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, où on disait, Bordeaux ne travaille pas avec le local, dans le recrutement, c'était du grand n'importe quoi, on va toujours chercher du côté de Paris, etc., mais avec les clubs locaux, c'était catastrophique. Moi, je me souviens avoir rencontré des clubs locaux de Bordeaux, hein, donc Mérignac, etc., qui disaient, on n'a plus de connexion avec le club. Donc il va falloir se remettre à travailler correctement dans ce club, un bon fond pour tout. Alors, sur ces dernières années, je dois avouer, je sais pas comment ça se passe avec les clubs aux alentours, il va falloir retravailler correctement. Donc j'ai envie de te dire aujourd'hui, si ça coule, le temps, là, de toute façon, ça va être ceux qui sont dans l'association qui vont reprendre le trio et compagnie. Il va falloir remettre quelqu'un à la tête, repartir sereinement, ce qu'on aurait dû faire il y a déjà quelques années avant que Lopez arrive, à la sortie du Covid, et repartir sur des scènes basses, parce que ça devient n'importe quoi. J'en ai marre que chaque année, soit le sketch de on démarre la saison. De toute façon, notre saison, elle démarre en juin, au moment où on fait le budget. Et l'autre question qu'il faudrait quand même qu'on se pose une fois pour toutes dans le football français au général, la DNCG qui intervient à la fin de la saison pour dire toi tu coules, toi tu coules, toi tu t'écoutes et toi tu coules, en sachant qu'à l'échelon inférieur, les budgets vont encore être moins élevés, mais par contre, que d'autres payer et consommer le club, c'était toujours présent, ça marche pas. Donc soit il y a une DNCG forte au démarrage, qui calibre bien les choses, histoire qu'à la fin de l'année, il n'y ait aucune surprise pour tout le monde, ça va se poser des questions.
Mais la marque, c'est juste un actionnaire. Là, de toute façon, au niveau amateur, tu as besoin d'une injection de fonds de l'actionnaire, dont la DNCG peut faire n'importe quoi. Si l'actionnaire décide de ne pas remettre au pot, il décide de ne pas remettre au pot. Enfin, tu vois, ils sont suspendus à une injection d'actionnaire.
En vrai, c'est quand même malheureux qu'à ce niveau-là, dans le championnat français, on a besoin d'actionnaires qui remettent au pot.
Bah non.
Merci beaucoup, Marc, en tous les cas, d'avoir composé le 32-16. Et bon courage à toi et à tous les supporters des Girondins. On attendra la décision définitive, en tous les cas, concernant donc l'avenir de ce club historique de notre championnat. Corentin, merci beaucoup d'avoir passé une tête dans l'after. Max et David, je vous garde. Bien évidemment, on va parler de l'Olympique de Marseille dans un instant sur RMC. L'after, ne bougez pas.
RMC, l'after foot.
Christophe Clenet.
Avec Maxime Chano, avec David Guzman, on parle à présent de l'Olympique de Marseille. On en a longuement parlé hier, mais c'est un sujet qu'on adore. Leonardo Balerdi conspué au Vélodrome hier. Pierre-Emile Heuberg démis ses fonctions de capitaine par la direction du club. Le vrai faux départ de Naïef Aguerd, de l'absence de gardien titulaire. L'OM fait toujours autant parler, partout, tout le temps. Le club phocéen est scruté, analysé, disséqué, décortiqué. Supporters de l'OM, on vous attend au 32-16, à moins d'une semaine de la reprise du championnat contre Strasbourg. Voici l'avis tranché de David Guzman. Jingle.
Soit tire un peu la jambe ou sont complètement en pleine restructuration.
Tire la jambe, mets de côté s'il vous plaît.
Ah, ils sont méchants hein, en régie. Hein. David, c'est à toi et tu veux parler de Franck McCourt.
Ouais, il tire un peu la jambe aussi d'ailleurs. Franck McCourt, non mais Franck McCourt, à mon sens, ça va être la saison vérité parce que ça va être la saison la plus difficile certainement depuis qu'il a repris l'Olympique de Marseille il y a plus de 10 ans. Moi, pendant longtemps, Franck McCourt, j'ai peut-être été naïvement ou exagérément positif à son encontre. J'ai fait plusieurs avis tranchés. En répétant, et je persiste à le penser, que les supporters marseillais ont de la chance d'avoir Franck McCourt, qui a injecté plus de 700 millions d'euros dans le club, qui encore cet été a garanti une partie du futur déficit d'exploitation et a permis, de façon un peu ironique, à l'OM de ne pas vendre tout son effectif pour satisfaire la DNCG et l'UEFA. Mais Franck McCourt, il est un peu à un tournant, et pour un club qui se veut une institution, à mon sens, il va devoir respecter et imposer le respect concernant plusieurs éléments. Le premier, c'est que Franck McCourt, il va devoir un peu plus respecter sa hiérarchie, la chaîne de commande et les salariés. Moi, j'ai été interloqué et profondément heurté par sa sortie indirecte, parce que ça a tellement fuité que ça ne peut venir que de la direction, quant à Pierre-Emile Heuberg. Pierre-Emile Heuberg, pardon, c'est juste le reflet de son incurie financière. C'est-à-dire que c'est complètement contre-productif de sanctionner un joueur, donc de lui retirer le capitanat, et de publiquement, entre guillemets, le sermonner pour son refus d'aller signer à Newcastle. C'est-à-dire que les 500 000 euros par mois, c'est Franck McCourt via la direction qu'il a mise en place, qui leur a donné. C'est contre-productif et ça va faire perdre de la valeur à Pierre-Emile Heuberg sur le marché que de le sermonner comme ça publiquement. Idem avec Bruno Genesio, qui a été très franc. Moi, j'ai adoré sa sortie, qui a avoué que lui, sportivement, il comptait sur Pierre-Emile Heuberg. Et Franck McCourt, qui dit que tout le monde a besoin d'être solidaire dans cette saison un peu galère, j'aimerais bien qu'il commence un peu plus à écouter son entraîneur, justement en parlant de solidarité, et qu'un joueur qui joue, c'est aussi un joueur qui est mis en avant, et c'est aussi un joueur qui peut partir beaucoup plus facilement. Le deuxième respect, c'est bien évidemment le respect de la réglementation financière. De toute façon, il y est obligé par l'UEFA et par la DNCG, parce qu'il a pris des engagements très forts, et l'UEFA, c'est une qualification aux futures Coupes d'Europe, dépend de cette cure de maigreur, de minceur, pardon, qui va devoir mettre en place. Ensuite, le respect des supporters, dans la mesure où je trouve que dans ces temps très difficiles financièrement, même si il ne veut pas affaiblir sa position de négociation sur le marché, un peu d'exercice de communication financière, un peu de précision quant à la situation financière. Lui qui répète que le club doit faire des efforts financiers. Les supporters marseillais sont souvent pris pour plus idiots qu'ils ne sont, plus enflammés qu'ils ne sont, plus exaltés qu'ils ne sont. Et je suis absolument certain qu'ils pourraient facilement, aisément comprendre un discours de raison avec des objectifs chiffrés concernant les futures ventes à venir. Et quatrième point, être une institution, c'est aussi se faire respecter, et se faire respecter dans les institutions. Scheherazade Semcesar de Boissaison vient d'être réélu à la Ligue, une Ligue où l'OM était complètement inaudible suite à la sortie tout corrupt, complètement incroyable de Pablo Longoria il y a deux saisons. Donc avoir un OM audible et respecté dans les instants, ça va aussi être un challenge de Franck McCourt. Donc Franck McCourt, pour moi, c'est la saison de tous les dangers. C'est, il va avoir plusieurs tests à passer par rapport aux salariés, par rapport à la situation financière, par rapport aux supporters et par rapport aux instances. Et c'est une saison charnière dans son mandat à la tête d'OM.
Et Max, il va falloir être prêt tout de suite. Hein, les cinq premières journées, Strasbourg à domicile, je l'ai dit, déplacement à Monaco, réception du PFC, déplacement à Rennes et le PSG au Vélodrome en septembre pour la cinquième journée. Il est chaud ce début de saison.
Et tu m'enlèveras pas l'idée que les supporters de l'Olympique de Marseille, qui connaissent très très bien le ballon, quand bien même c'est une saison de transition, si on peut l'appeler comme ça, de dégraissage, si les 4-5 premiers résultats sont mauvais, je pense que ça risque d'être un bon bordel sportivement. Ça l'est déjà dans la direction et j'ai énormément de craintes pour l'Olympique de Marseille. Alors j'étais très heureux de l'arrivée de Lorenzi. Je trouvais que c'était un bon choix dans la mesure où on avait compris que McCourt allait fermer les robinets, qu'il ne voulait plus dépenser à tort et à travers, aller chercher un directeur sportif qui maîtrise très très bien la Ligue 1. C'était une bonne option. Alors dans quelles conditions, ça, on va pas y revenir. On a vu qu'il y avait quand même encore une fois des erreurs de la part de McCourt. Quoi qu'il en soit, j'avais dit donc que Lorenzi était une bonne chose. Alors, la saison a commencé avec un petit bordel aussi, entre guillemets, parce qu'il y avait le l'imbroglio entre Lorenzi, l'OGC Nice et l'Olympique de Marseille. On a mis un peu ça sur le côté.
C'est une bonne chose qu'il réussit à le débaucher.
Mais c'est vrai que t'arrives à un moment où l'Olympique de Marseille, avec tout ce qui s'est passé l'année dernière, t'as besoin un petit peu de stabilité, de calme. Et avec l'arrivée de Lorenzi, j'imaginais que ça allait être le cas. Bon, finalement, ça l'est, on va dire plus ou moins. Derrière, il récupère Genesio, qui, ma foi, était pour moi une belle opportunité, d'un point de vue en tout cas financier, même si je sais pas si vous avez vu, mais Genesio, quand il parle, j'ai l'impression que ça fait quoi? Ça fait 2 mois qu'il est à l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression qu'il a pris 10 ans. Il a laissé pousser la barbe, il a laissé cernes.
Après, Genesio, il est honnête. Il pense à son équipe au côté sportif. Après sa sortie hier, moi je trouve que ça fait
donc,
des ordres.
Pour terminer par rapport à la doublette Genesio-Lorenzi, alors j'entends qu'en effet lui aussi doit se protéger, il doit protéger son groupe, mais tu ramènes un entraîneur qui est quand même censé entre guillemets tirer dans la même direction que son directeur sportif et son président, là c'est complètement l'inverse. Donc en fait il vient encore une fois remettre de l'huile sur le feu en disant c'est ma direction, c'est un bordel phénoménal ce qui se passe à l'Olympique de Marseille, et tu changes les hommes et ça continue et encore, ça continue, alors que pour l'instant, ils n'ont pas la pression sportive des mauvais résultats. Alors imaginons, tu l'as dit Christophe, que sur les 5 premiers matchs, en plus de ça, ça commence à perdre. Oh là là, mais j'imagine les aspirants diablés qu'on va faire là sur les 4-5 premières semaines.
Si je devais résumer mon avis, c'est que injecter de l'argent, ça suffit pas. Il a longtemps cru qu'injecter de l'argent, ça suffisait, et prouvait que ça ne suffit pas. Et c'est quand le bateau tangue, justement, qu'il faut avoir un actionnaire un tout petit peu plus visible, un tout petit peu plus impliqué, ouais, et un tout petit peu plus,
oui, il aurait dû le
même
faire avant,
beaucoup plus à l'écoute de ses équipes. Mais c'est-à-dire que moi,
il
j'aime
a été
beaucoup
à l'écoute pendant 10 ans. Il a balancé 700 millions d'euros.
Mais il n'était pas à l'écoute.
Oui, mais c'était l'écoute. C'est-à-dire que quand les mecs arrivaient en disant j'ai besoin de tant d'argent pour pouvoir faire une saison convenable, il envoyait l'oseille. Là, je me mets à sa place. Il est en train de tout dilapider. Heureusement qu'il va essayer de reprendre les manettes du bateau. Mais malheureusement, il le fait maladroitement. Mais ça, c'est aussi la réalité de beaucoup d'investisseurs américains, que ce soit aux États-Unis et encore plus en Europe, qui récupèrent des clubs de foot. Les Américains ne connaissent rien au football, au soccer. Il faut l'accepter. C'est le monde du capitalisme. Où est-ce que ils lancent leur argent comme ça en espérant pouvoir gérer ça de la même manière qu'ils gèrent leurs entreprises ou leurs fonds d'investissement aux États-Unis? T'es bien placé pour le savoir. C'est deux choses différentes. Allez. Et c'est la raison pour laquelle ça fonctionne pas.
On accueille Idir, qui a composé le 32-16. Salut, supporter marseillais. Salut Idir.
Salut Idir.
Salut tout le monde. Ça va?
Très bien, très bien. Est-ce que toi, tu crois encore à Franck McCourt?
Moi, la vérité, actuellement, c'est très compliqué de croire. Parce que maintenant, lui, ce monsieur, tu dois arriver à faire une masse salariale de 100 millions, parce que l'UEFA et la DNCG demandent une masse salariale de 100 millions et vendent des joueurs pour 80 millions d'euros. Normalement, ils vont y arriver. Après, pour la saison à venir, le problème, ça va savoir quel équipe on va avoir. Je pense qu'on aura l'équipe en templé après le dernier jour de Mercato. Il y aura, je pense, encore des départs et des arrivées. J'ai entendu Topido, il y a eu un accord, mais problème, il faut que l'OM vende avant de signer des joueurs.
C'est ça.
Si on n'arrive pas à vendre un ou deux joueurs, la DNCG ne nous donne pas la permission pour signer des joueurs. La DNCG, l'année dernière, avec Lyon, ils ont été plus tolérants. Avec l'OM, ils sont moins tolérants. Moi, il faudra m'expliquer ça, parce que moi, je voudrais bien ton misplit. David, je voudrais bien que tu misplit. C'est quoi le problème, en réalité, financier de l'OM?
Voilà, mais non, mais en fait, si tu veux... Enfin, alors... À mon sens, il n'y a pas un problème de survie financière à l'OM. Il y a juste un problème d'un côté pour satisfaire le ratio, le squad cost ratio de l'UEFA, c'est-à-dire le montant maximum de dépenses joueurs par rapport aux revenus. Et d'un autre côté, il y a un déficit d'exploitation prévisionnel qui doit en partie être comblé par la vente de joueurs et qui a en partie été comblée par Franck McCourt. En fait, la situation avec Lyon, elle est complètement différente. Il y a beaucoup de supporters et je te blâme pas de faire la confusion, Idia, qui confondent montant de dette, si tu veux, et déficit d'exploitation. Après, attention, l'UEFA à Lyon, ils ont quand même plus de 200 millions de déficit d'exploitation à combler sur 3 exercices. C'est très 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 raide. C'est un régime draconien. C'est un régime draconien qu'a bénéficié, dont a souffert Lyon. Enfin, faut pas croire que Lyon est passé à travers les gouttes, Idir. Enfin, tu vois.
Ouais, voilà, parce que moi, je pense que cette année, moi, je pense que Maxime, je crois que nous, les supporters, on va être patients cette année. Tu dis, si on perd 2 ou 3 matchs, on n'a pas le choix, on est obligé d'être patient. On sait que nous, à l'OM, on tenait le football, je parlais plutôt de supporters au téléphone. On sait que ça va être une année difficile. L'objectif cette année, c'est d'être dans les 5 premiers. Et après, si Genesio, il arrive à faire mieux, l'objectif, c'est d'être européen. Parce qu'on sait, que ça va être une saison difficile. Parce que vous, les médias, vous nous mettez déjà la pression pour une histoire de capitana. Alors que d'autres clubs, il y a des histoires qui arrivent dans d'autres clubs, vous leur mettez pas cette pression.
Nous, à l'OM,
vous, les médias, vous nous mettez tout le temps la pression.
Mais
tout
le temps, pression. Tu rigoles.
Simplement,
ce n'est pas un dire banal.
Vous êtes responsable un peu les médias.
Et dire, on a passé.
Vous êtes un peu responsable les médias. Tout le temps, vous parlez de l'OM. L'OM.
Et quand on parle pas de l'OM, vous êtes pas content.
Et donc. Non, mais dire.
Allez, dire, merci d'avoir composé le 32-16.
J'attends pas tous les médias.
Et on va te souhaiter.
On a passé
un bon début de saison.
On a passé l'été à dire qu'on était confiant quant à la situation finale de l'OM au mois de septembre. Walid l'a dit, je l'ai dit, Elton l'a dit, Max l'a peut-être un peu moins dit. Tu devrais t'en prendre à Max un peu plus.
Merci.
Mais je m'en prends à Max Tour, on l'entend pas.
Merci beaucoup Idir d'avoir composé le 32-16. Marseille qui démarrera la saison 2026-2027 vendredi face à Strasbourg. Ce sera au stade Vélodrome. Il est presque 23h30. Vous écoutez RMC, vous écoutez l'After. On revient dans un instant avec Maxime Chano et David Guzman.
RMC, l'After Foot.
Christophe Plenet.
Avec Maxime Chano, avec David Guzman, on continue de parler foot bien sûr dans l'after avec toujours plus de débats enflammés et on va prendre la direction de l'Angleterre. On va traverser la Manche avec la Première Ligue qui rouvre ses portes la semaine prochaine, vendredi prochain précisément avec Arsenal, le champion en titre qui accueille Coventry. Les Gunners avaient fini devant City l'an dernier, on s'en souvient. S'oriente-t-on, les amis, vers un nouveau duel entre les Gunners et les Citizens?
Bah, je pense que oui. Ça, je vois pas quelle autre équipe actuellement en Première Ligue peut aller concurrencer City et Arsenal. Certains diront peut-être Chelsea avec leur nouvel entraîneur Xavi Alonso. J'y crois pas un instant, mais bon, pour revenir à ces deux clubs là, ça va être intéressant. Bon, je sais que David, qui est l'expert de la Première Ligue, va pouvoir compléter mon analyse. Moi, je voulais surtout m'attarder par rapport à Manchester City, hein, qui redémarre un nouveau cycle avec le départ de Pep Guardiola et l'arrivée de Maresca. Alors, Maresca, qui connaît bien la maison, c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier, mais ça a été bon l'adjoint de Guardiola. Il me semble qu'il est passé chez les jeunes aussi de Manchester City, hein, donc avant de partir à Chelsea, où est-ce qu'il a plutôt bien fonctionné.
Il est monté avec Leicester, a fait 97 points.
Mmh. Exactement. Et puis à Chelsea, où est-ce qu'il gagne? Il gagne la conférence, hein. Il gagne la Conference League, c'est possible.
Il fait quatrième et il gagne les coups de
monde des clubs. Donc bon, on se rend compte que c'est un entraîneur qui est plus que performant. Je suis content de le voir arriver du côté de Manchester City. Alors bon, il y a quand même aussi des départs et c'est ça qui m'inquiète un petit peu, le départ de Rodri.
S'asseoir sur le bord derrière Pep, c'est pas évident.
Pep, c'est pas évident, mais encore une fois, on l'avait dit un peu plus tôt avec tous les disciples entre guillemets de Pep Guardiola, et Maresca en est un. Donc je pense qu'il arrive en terre connue, ça risque de faire gagner du temps en tout cas dans son adaptation. Moi, ce qui m'inquiète un peu plus, c'est le départ des tauliers. Alors certains te diront qu'il jouait un peu moins, Bernardo Silva, le départ pas encore acté de Rodri, mais qui se dessine de plus en plus. Donc c'est vrai que ça, moi, ça m'ennuie. Tu sais, je value beaucoup l'expérience dans un vestiaire, et même si c'est vrai que Manchester City est capable de gagner, en tout cas de performer sans ces grands joueurs là, j'ai un petit doute. Je suis un petit peu perplexe quant à l'arrivée de Boadi aussi, parce que c'est certes un très bon joueur si ça devait se finaliser, mais est-ce que c'est un joueur qui peut être prêt directement pour la première ligue? Pareil pour Elliot Anderson, qui est un très bon joueur, même si c'est vrai que de passer de Nottingham Forest à Manchester City,
il a quand même prouvé que au très haut niveau il pouvait répondre
sur une compétition oui. Qui était très courte, sur des premiers matchs qui étaient quand même pas forcément du niveau de la première ligue. Dans cette Coupe du Monde, je me suis fait tomber dessus, mais la réalité, même si la Coupe du Monde reste la compétition de l'élite dans le football professionnel, la réalité c'est que sur les premiers matchs, je suis pas convaincu que ça soit du niveau d'une première ligue. On sait que Nottingham Forest a été une équipe qui a été intéressante, pas l'année dernière où ça a été un petit peu plus compliqué. Donc à voir ce qu'Eliot Anderson va faire une fois qu'il va arriver dans un club qui est beaucoup plus dominant comme Manchester City. Voilà, enfin tout ça pour te dire que je pense que Manchester City va être présent. Je vois malgré tout un Arsenal un peu plus compétitif. David va terminer avec mon analyse, mais c'est vrai que voilà, il y a juste ce questionnement par rapport à City, ce nouveau cycle, cette période de transition, le rodage aussi des nouveaux joueurs qui vont arriver. Voilà, mais c'est sûr qu'on va avoir le droit, j'imagine, encore une fois, une saison de première ligue excitante.
Bah, City, la vraie question, c'est vrai que c'est le milieu, tu l'as dit. Après, la grosse inconnue, c'est, bon, Boadi, je pense que ça va se faire, c'est surtout Enzo Fernandez. Parce que là, très franchement, tu jouais avec, dans le double pivot, tu jouais régulièrement avec Rodri, Bernardo Silva. Si t'arrives à faire Anderson, Enzo Fernandez et Boadi, t'as quand même encore Nico, t'as quand même encore Kovacic, t'as Rico Lewis qui peut jouer milieu.
T'as un peu de matos, ouais.
Ouais, t'as quand même un peu de matos. Moi, il y a un joueur en qui se croit beaucoup sous Maresca, c'est Phil Foden, et il sort de deux saisons beaucoup plus compliquées. Il y a trois saisons, il avait été élu joueur de l'année en première ligue, il a été absolument magistral toute la saison, et il a cette habitude de faire briller ses milieux offensifs, que ce soit Deuce Boreal du côté à Leicester ou Cole Palmer à Chelsea. Après oui, Arsenal, si on va vers le champion sortant. Moi, j'aime bien leur mercato, mais il est encore insuffisant. Tsiolis, je suis absolument certain que ça va être une bonne recrue. Il a déjà été performant en match amical, entre les lignes, la capacité d'attaquer le but, il est très intéressant, il est très spontané. Je suis certain que ça va être une bonne recrue. Bruno Guimaraes, moi, je trouve que c'est très très cher, mais c'est le meilleur milieu qu'il pouvait prendre pour compléter, l'arsenal, sans mauvais jeu de mots, qu'ils avaient au milieu, avec un profil hyper complémentaire. Qu'ils a vraiment fait mal historiquement, en plus en première ligue. Mais après, je trouve que offensivement, on se rend pas assez compte du fait que Arteta maximise, mais à 150%, les qualités de son secteur offensif. Saka, c'est toujours pas revenu au niveau d'il y a deux ans. Il a été perturbé par les blessures. Je suis pas du tout convaincu par Gyökeres. Havertz, j'adore, mais est-ce que c'est vraiment niveau 9 pour aller tutoyer, même s'il a marqué en finale de Champions League, c'est 9 réguliers pour aller tutoyer les sommets. De l'autre côté, Martinelli sur le départ, je suis pas convaincu. Blessure de Saliba, Mosquera qui va être peut-être propulsé titulaire, blessure de Tinder, de Timber.
Oui, Tinder, c'est autre chose.
Ouais, non. Blessure de Timber. Alors il y a peut-être l'arrivée d'Ezri Konsa, mais je trouve qu'il y a encore énorme et beaucoup de trous aussi dans cette défense. Donc moi, j'ai des interrogations sur ces deux équipes. Je trouve qu'on oublie rapidement Chelsea. Moi, je suis beaucoup plus convaincu que Max sur le niveau du Chelsea de Xabi Alonso.
On va parler de Chelsea dans un instant et de Liverpool, hein, avec l'arrivée de Jeff Bezos également en tant qu'actionnaire minoritaire. Mais je voudrais qu'on accueille Valentin, qui nous appelle et qui est supporter à la fois d'Angers et d'Arsenal.
Salut Valentin.
Salut Valentin.
Le grand écart. Hein.
Oui. C'est le grand écart, ça.
Jeff Reneadelaide et le lien entre les...
Et Nicolas Pépé.
Nicolas Pépé, ouais. Bien sûr.
Ouais. Bien joué. Donc supporter d'Arsenal, Arsenal champion en titre, Valentin, qu'est-ce que tu attends de cette saison qui démarre donc la semaine prochaine?
Bah, j'attends déjà au niveau de la Ligue des Champions le même niveau. Tous les ans, Arsenal en Ligue des Champions, ça a augmenté d'année en année depuis qu'ils sont revenus. Donc on a fait première année quart de finale, deuxième demi, troisième finale. Cette année, j'espère le titre évidemment. Se maintenir en première ligue, ça va être essentiel, le titre. Il y a pas d'autre solution. Il faut qu'Arsenal vraiment domine la première ligue. Il va falloir se renforcer. Je trouve qu'Arsenal est encore un petit peu juste, notamment défensivement, avec l'absence de Saliba qui va être à longue durée. J'ai très peur, moi, c'est du côté droit, parce que Timber, on est très dépendant de Timber, et Timber là, à nouveau blessé, on ne sait pas de quel niveau il va avoir.
Ben White. Est hyper friable aussi physiquement.
Et Ben White qui est très friable effectivement défensivement.
Physiquement, moi défensivement je l'aime bien, mais c'est plus physiquement, moi je le trouve fragile.
Oui, physiquement aussi, je me suis trompé, excuse-moi, effectivement. À gauche, Art Solis, j'attends de voir ce que ça va donner. Martinelli, on sait très bien qu'il est sur courant alternatif, et généralement il était bon quand il était mis en concurrence avec Trossard. De toute façon, c'était ce qui se passait avec Arsenal.
Sur le départ, parce que
il a refusé Galatasaray.
J'avais entendu que dans le cas d'arrivée de Osimhen, Martinelli sera inclus dans le deal. Ouais.
Bah, apparemment, il veut pas aller en Turquie. Donc après Gyökeres, là l'année 2, on va voir. Il y a eu une année de transition, on va voir. J'attends beaucoup moi cette bouclée Osaka cette année, qui m'a énormément déçu l'année dernière. Et j'espère enfin pour lui, parce qu'on s'est renforcé notamment au milieu de terrain avec l'arrivée notamment de Guimarães. Je pense que il va être un peu plus mis au repos. Mais que quand il va être titulaire, j'en attends beaucoup d'autres gardes qui, quand il est à 100%, vraiment, on sent la différence du côté d'Arsenal. Si on a un autre garde à 100%, sans pépin physique, c'est pas la même équipe. C'est vraiment pas la même équipe, offensivement parlant. C'est vraiment lui qui guide le jeu offensif d'Arsenal.
La préparation n'a pas été dingue, hein, de la part des Gunners. D'une
défensivement, surtout, ouais.
Face à Gérone, deux défaites face au Betis et à Dortmund, un nul, un partout contre Côme. Qu'est-ce que vous attendez, les garçons, du Community Shield, hein, qui se jouera demain avant la reprise de la première ligue?
Juste une petite aparté pour les arrivé Zolis, hein, tu sais, Zolis qui arrive du club de Bruges, le grec, hein, qui est une très très belle recrue, hein, pour Arsenal, en tout cas d'un point de vue potentiel, parce que c'est un super joueur. Hein. Je l'ai suivi l'année dernière du côté de la Jupiler League. Top joueur, top joueur.
Le Community Shield, donc en France, on a le trophée des champions, les Anglais ont le Community...
Ça s'appelle ça le Charity Shield avant.
Shield, effectivement, quelle importance il a ce match entre Arsenal et City, les deux favoris donc de l'APL?
Ah non, mais de toute façon, ça va être hyper important. Je sais, moi j'avais vu une vidéo, d'ailleurs personnellement, que j'avais adoré, d'un journaliste qui demandait à Gyökeres si c'était pas finalement un match amical. Et j'ai jamais vu un journaliste se faire fusiller du regard comme Gyökeres a fusillé du regard ce journaliste. Il a regardé, il disait, mais attends, mais vous êtes en train de plaisanter là. On va jouer Manchester City, qui est City qui a quand même été un traumatisme pendant longtemps pour Arsenal. Trois fois dauphin, cette finale de Carabao Cup où Kepa a complètement offert le trophée à Arsenal, où les supporters d'Arsenal pensaient, je sais pas Valentin, tu vas nous le dire, qu'ils allaient encore choquer comme ils disent, ou bottle, qu'ils allaient encore passer à côté des trophées, regarder le trophée pendant que les autres le soulevaient. Moi, pour moi, ce match, il est hyper important. Il va donner le ton de la saison. En plus, le calendrier est difficile. Après Coventry, c'est pas évident pour Arsenal.
Valentin, t'as envie de réagir?
Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit. Ça va être un match très important parce que c'est vrai que généralement, Arsenal City, ça se passe jamais très bien. Surtout sur les dernières années. Là, en plus, alors, Guardiola ne pourra plus donner de leçons à Arteta, comme on dit. C'est un peu un fait, hein. Chaque fois qu'il y avait Guardiola, Arteta, ça se passait pas très bien. Moi, le seul souvenir que j'ai où ça se passe bien, c'est le 5-1, il y a deux saisons, si je dis pas de bêtises. Mais sinon, ça a été laborieux. Notamment le dernier match de Carabao Cup en finale où on se fait broyer complètement.
Bonne première demi-heure, et puis après, Kepa te met dedans avec la faute de main et le but d'Oreilly, ouais.
Oui, bonne première demi-heure. Mais puis attention, parce que l'année dernière, on est passé quand même à deux doigts de la catastrophe. À un moment donné, on avait 12 points d'avance. On s'est retrouvé quand même derrière. Heureusement, la fin de saison où c'est City qui a calé. Heureusement. Parce que sinon, on aurait encore été deuxième une année de suite. Et je pense que si on avait à nouveau fait deuxième après avoir eu 12 points d'avance dans la saison sur City, je pense que Arteta aurait sauté.
Très bien.
Il va signer d'ailleurs Arteta.
Oui. Merci beaucoup Valentin d'avoir composé le.
Merci Valentin.
Le 32-16.
Bonne saison pour
bonne saison. Toi, le supporter d'Arsenal et du SCO d'Angers, il y en avait un. On l'a trouvé. Bravo Adrien au standard. On a parlé d'Arsenal et de Manchester City, donc les deux favoris. On a évoqué déjà un petit peu Chelsea.
quid de United, Manchester United et de Liverpool. J'en parlais hein, avec l'arrivée de Jeff Bezos en tant qu'actionnaire. Alors certes minoritaire, mais il a un peu d'argent.
Ouais, minoritaire à 30% avec des gens qui ont aussi beaucoup d'argent. Moi, Liverpool, alors la stratégie actionnariale en fait de Jeff Bezos, elle est encore hyper floue. Mais moi, je trouve qu'il y a énormément de trous dans cette équipe en charnière centrale, malgré l'arrivée d'Arojo. Je trouve que c'est encore très léger.
Petite parenthèse digression là, ils ont perdu en défense Van Dijk. Vous avez vu son but en Écosse là?
Non, je l'ai pas vu.
Monstrueux, il a dribblé tout le monde, il est parti du rond central et il a marqué.
Ah d'accord. Je te laisse poursuivre. Non, je l'ai pas vu. Je trouve qu'il y a encore des trous en défense centrale. Offensivement, idem. Mo Salah n'a même pas été remplacé poste pour poste. Et si Barcola vient, l'idée c'est de repasser Rion Gumoa, qui est le plus gros espoir sur le côté droit où il est pas forcément le plus à l'aise. Je trouve que ça manque encore d'une sentinelle. Donc Liverpool, j'adore Iraola, j'adore le choix d'Iraola, mais je trouve qu'il y a encore énormément de trous. Et moi, Chelsea sans Coupe d'Europe, avec Xabi Alonso, avec un recrutement très Xabi Alonso compatible, moi je les vois haut, très très haut. Vraiment, je sais que Max n'est pas d'accord sur Chelsea, il n'est pas convaincu.
Si, enfin non.
Ah non, t'es pas convaincu. Tu fais des émissions qui nous disent Max Lacroix, t'es pas convaincu.
Non, pardon, j'essaie de me convaincre. Alors ça dépend. Ce que tu veux dire par je suis pas convaincu, est-ce que Chelsea va être champion de première ligue? Non, je ne pense pas, parce que je pars toujours du principe que lorsque un nouvel entraîneur arrive, il y a un temps d'adaptation.
Arne Slot, première saison, timbale.
En tout cas, c'est pas le cas de tous les entraîneurs. On l'a vu. Je pense que, en tout cas, je l'espère pour Xabi Alonso, ça va être pour lui un projet sur plusieurs années. Donc le fait de peut-être pas gagner directement, c'est pas forcément quelque chose de mauvais. Mais voilà, je trouve que Chelsea est tellement malade. Il y a tellement de un gros problème de fond par rapport à un effectif qui est bien trop grand, avec un Xabi Alonso, encore une fois, je vous le dis, qui va arriver et qui n'a finalement même plus le droit à l'erreur, parce que c'est vrai que sa dernière expérience, c'est quand même pas très bien passé.
Il s'est raté une fois, t'es dur.
Ouais, mais il s'est raté une fois sur un club
si
de très haut niveau.
Je pense que tu retombes pas à Lugones,
compris que tu retrouves un club, mais tu sais très bien que quand tu te rates une première fois, ta cote, elle descend. Si tu te rates une deuxième fois, c'est beaucoup plus compliqué de retrouver quelque chose. On n'oublie pas que c'était un entraîneur qui avait une vibe exceptionnelle après ce qu'il avait fait à Leverkusen. Oh, donc c'est vrai qu'il y a quand même une certaine pression. Alors, à voir si la direction de Chelsea va lui laisser du temps. Ça, c'est toujours le problème avec le football moderne, et surtout encore plus en Première Ligue. Voilà, j'ai quand même des bons espoirs pour qu'il puisse relancer des joueurs, et notamment Cole Palmer. C'est vrai qu'il a été un petit peu en difficulté l'année dernière.
Très en difficulté, pas un petit peu, très en difficulté.
Mais je le répète, quand je vois un petit peu cet effectif, le nombre de joueurs qu'il y a,
Lacroix
est à Chelsea, alors que tu vois que tout ce qui s'est passé historiquement avec les défenseurs centraux français, je me pose encore la question pourquoi il a
fait ça. Il est bloqué sur les défenseurs centraux français.
Pour moi, c'est quelque chose qui est important, parce que tu sais très bien que c'est un poste que j'apprécie et que je scrute particulièrement.
Qu'est-ce que j'apprends, tu jouais pas avant centre
Si tu m'avais vu sur le terrain, tu aurais compris.
Mais Max, est-ce que le recrutement te rassure pas?
Si,
Welbeck, doublure, hyper malin, deux saisons qu'il est hyper. Non, mais il rajoute de l'expérience. Henderson, il va pas jouer 2000 minutes, mais il rajoute de l'expérience. Lacroix, défense à 3, hyper malin. Pep Savaria, profil très apprécié par Rogers. Morgan Rogers et Cole Palmer, tous les deux issus de l'Académie de City, et qui s'entendent hyper bien en plus.
Tu sais très bien que c'est pas en ajoutant des noms, en superposant des noms, que ça fonctionne.
C'est un profil tactique qu'ils prennent.
Ce que je suis envie de te dire, c'est qu'aujourd'hui, sur le papier, certes, ça a l'air d'être intéressant ce que Chelsea est en train de faire.
Ils ont l'air d'avoir retenu les leçons. Parce que toi, tu doutes de ça.
Le passé nous a montré que ça ne suffit pas. Voilà. Si Chelsea, en tout cas, la direction de Chelsea laisse du temps à Xabi Alonso, je dis pourquoi pas.
Je pense qu'ils ont compris.
À court terme, sur la prochaine saison, je vois mal Chelsea aller essayer d'embêter Manchester City et Arsenal.
Peut-être
qui partent de trop loin avec trop d'avance par rapport au.
Toi, tu parlais de Manchester United.
Rapidement, United, Michael Carrick, on met une pièce dessus ou pas?
Moi, United de Michael Carrick, j'aime bien, mais
tu mets pas ta maison, quoi.
Non, c'est pas ça. C'est que, en fait, j'ai bien aimé le recrutement tout de suite avec des joueurs prêts à l'emploi, Cunha, Mbomo, l'année dernière pour la Première Ligue. Je trouve que Ineos, c'est un peu radin et il s'est pas forcément renforcé dans les secteurs où moi j'aurais espéré qu'il se renforce, c'est-à-dire à gauche, derrière, au milieu, où je trouve que c'est encore un peu léger. Donc voilà, moi je les vois top 5 Champions League, mais pas encore à challenger pour
le. Je suis très heureux de l'arrivée du petit Tillmans, que j'aime beaucoup aussi.
Pour moi, ça peut être potentiellement la recrue de la saison.
Exactement, et le lien entre la défense et l'attaque, ce qui manquait
un peu. Mais il manque encore en fait au moins un joueur au milieu.
Très bien, et bien ils vont peut-être recruter d'ici la fin du mois d'août. Ça tombe bien, on va parler mercato dans un instant dans l'after sur RMC, ne bougez pas.
RMC, l'afterfoot.
Christophe Plenet.
Avec David Glusman, avec Maxime Chano, la dernière ligne droite de l'after. On est ensemble jusqu'à minuit. Et les clubs de Ligue 1 sont également, quant à eux, dans la dernière ligne droite de leur préparation. Quelques résultats d'ailleurs aujourd'hui de matchs amicaux avec Lille, hein, qui a fait match nul, un but partout face à Everton. Mais Max, David, la mauvaise nouvelle, c'est que Olivier Giroud est sorti sur blessure.
Higaman blessé.
On avait l'air à 5.
Higaman blessé. Depuis longtemps, Fernandez Pardo, qui à mon sens est le déclencheur du sprint final absolument fabuleux de Lille au poste d'avant-centre, qui lui a des velléités de départ, voilà. Ça va être un peu compliqué parce que à part le petit Diaoun qui peut jouer en pointe, j'ai un peu d'inquiétude à ce poste pour le LOSC, ouais, à moins de recruter.
Ouais, Olivier qui s'est blessé avec un contact d'un joueur qu'on connaît bien du côté de la France, Illiman Ndiaye, il est sorti à la 20e minute.
Hein. C'est ça. Ouais.
Donc ouais, c'est un peu inquiétant pour un joueur qui a un certain âge. Après, par rapport à l'effectif lillois, je pense que si Olivier devait être blessé rien que quelques semaines, ça fermerait la porte à un départ de Fernandez Pardo. Après, à partir du moment que les temps a pris note de ça, je pense, enfin, j'imagine en tout cas qu'il aura l'intelligence de pouvoir recruter quelqu'un d'autre. Voilà, pour l'instant on va attendre un petit peu et on va voir ce que ça donne.
Si j'ai un conseil à donner, continue à jouer en pointe parce que je l'ai trouvé absolument remarquable l'année dernière en pointe.
C'est ce qu'a fait Genesio en le replaçant dans l'axe de l'attaque, c'était quelque chose de très intelligent de sa part. Il a des courses verticales qui font très très mal à la défense, aux défenses adverses, et puis surtout il va avoir la chance de pouvoir évoluer dans un niveau qui est la Ligue des Champions, qui est vraiment le summum du football professionnel. Il a fait le choix aussi justement de choisir l'équipe nationale belge, donc ça va lui donner une valeur marchande encore plus importante sur les années à venir. Donc voilà, ça c'est la petite aparté effectif lillois, mais c'est vrai que si Olivier Giroud devait être blessé, ça serait une vraie problématique pour l'effectif lillois.
Ouais, pas de chance pour Olivier Giroud qui était capitaine en plus pour ce match. On espère que ce ne sera pas très grave pour l'ancien international français. Rennes a terminé sa préparation par une défaite 2-1 contre Sunderland malgré un but d'Esteban Le Paul.
Comme d'hab,
il faut être inquiet par cette défaite.
Prennent beaucoup de buts
contre Sunderland. Prennent
beaucoup de buts en préparation. Rennes, il y a quand même un secteur défensif qui est mouvant.
C'est avec l'année dernière d'ailleurs.
Avec Cresswell qui arrive, avec Brassier qui va peut-être partir, avec Roux qui va peut-être partir, avec Aïd Boudlal qui va peut-être partir. Moi, je serais très surpris qu'il parte parce que j'adore ce joueur et j'ai trouvé l'offre de 35 millions. Alors, ça va peut-être faire hausser les sourcils, limite insultante pour un joueur aussi prometteur, même si je crois qu'il y a une question d'extension de contrat qui tarde. Ils prennent beaucoup de buts, Rennes.
Ouais. Et Rennes enchaîne une troisième défaite avant de se déplacer sur la pelouse du PSG. Ce sera dimanche prochain pour la reprise de Ligue 1. Rapidement, avant de parler du Mercato, 0-0 pour Nice face à Hull City. Il y a eu également une victoire du Havre face au Mans. Et le TFC qui a perdu, si je ne dis pas de bêtises, non, un partout cet après-midi face à Hambourg. La Ligue 1 qui rouvre ses portes donc dès la semaine prochaine. Le trophée des champions, c'est demain. Et le Mercato, l'actualité des transferts, c'est tout de suite dans l'after. Jingle.
C'est combien ?
30 000.
Attends, je vais te manger.
Allez, 27 000 avec le tam-tam.
Non, fais-moi 30 000.
Bon, allez, laisse tomber. Fais-lui ses 30 000. C'est un con.
J'adore. On en parlait tout à l'heure, hein. C'est tombé il y a une heure. C'était un secret de Polichinelle, hein, mais c'est désormais officiel. Donc Mika Goetz, 21 ans, 5 ans à Paris pour a priori 55 millions d'euros. Et il a de la gueule quand même, le recrutement du Paris Saint-Germain.
Ouais, moi je suis très très heureux de l'arrivée de Goetz. Honnêtement, je pense que c'est un bon choix de la part des dirigeants parisiens. Alors je vais être très honnête avec vous, c'est pas un joueur que j'ai suivi toute la saison l'année dernière, même si j'en ai entendu parler parce que c'est un international belge de sélection, me semble-t-il. Donc il est connu du côté de la Belgique. Voilà, ça prouve aussi et ça montre un petit peu la direction que veut prendre le Paris Saint-Germain en se dirigeant sur des profils un peu plus jeunes que ce qu'ils avaient fait sur le début de l'ère avec Luis Campos. C'est un très très bon choix. Alors après, à voir ce que ça va donner en Ligue 1, c'est un joueur avec qui on va sûrement lui laisser du temps de s'adapter. J'imagine pour lui c'est exceptionnel, hein. Il passe de l'Ajax d'Amsterdam au Paris Saint-Germain, qui est le plus grand club d'Europe. Voilà, je suis agréablement surpris et très heureux de voir ce que ça va donner. J'aime toujours Savoir que les Belges arrivent en Ligue 1, c'est un pays que j'aime beaucoup. Et
c'est pas loin du Luxembourg, c'est
pas
ça.
Pas loin du Luxembourg, et, mais c'est surtout en plus des joueurs qui ont tendance à être, qui ont tendance à quand même réussir du côté de la Ligue 1. Donc on va voir ce que ça va donner. Puis dans un effectif comme le Paris Saint-Germain, t'imagines, pour lui c'est exceptionnel. Il va apprendre, et avec un mentor comme Luis Enrique. Non, c'est une bonne chose pour le Paris Saint-Germain et un bon transfert en tout cas sur le moyen ou le long terme.
On a parlé de Ferran Torres, Götze plus Torres. Est-ce que ça scelle définitivement l'avenir de Bradley Barcola? Il va partir, c'est une certitude, David?
Oui, c'est une certitude. En tout cas, ils ont pris le parti de faire Götze avant même de laisser partir Barcola. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils vont brader Barcola, sans mauvais jeu de mots d'ailleurs. Mais je pense que oui, ça annonce un départ. De toute façon, plus on s'achemine vers la fin de la fenêtre de transfert, plus l'urgence va être importante pour Liverpool de recruter. Donc je pense qu'on va arriver à une somme rondelette. Moi, Götze, je connais pas du tout. Je me méfie juste de la taxe Eredivisie, où notamment sur les joueurs offensifs, on est toujours un chouïa déçu. Enfin, pas toujours, mais régulièrement déçu du rendu dans des championnats un peu plus relevés. Mais c'était un joueur qui était coté, qui apporterait peut-être plus de précision devant le but que Bradley Barcola, qui pêchait un peu dans ce secteur. Je connais pas super bien le joueur, mais c'était un joueur très très suivi en tout cas.
R9 a commencé sa carrière en Europe, aux Pays-Bas, hein, David Guzman. Ouais,
bah, après, Romario aussi. Romario aussi, mais ça fait longtemps quand même.
Ouais, ça fait un petit bout de temps. Mais t'as raison par rapport à ça. C'est intéressant comme analyse, parce que c'est des championnats qui sont tellement tournés vers l'avant, et c'est la même chose avec la Bundesliga. Parfois, on est déçu des rendements qu'ont des attaquants qui marquent énormément de buts sur ces championnats-là. Et lorsqu'ils arrivent dans des championnats un peu plus fermés, un peu plus tactiques, comme la Ligue 1 ou la Serie A, et bien, ils sont relativement moins.
Lui, il est vraiment très coté. Ça va pas être un Calvin Steins ou un Byron Boadou. Mais le
moins
fait
décisif
est
qu'en Eurodivisie, je suis d'accord avec toi. En fait, t'as le meilleur cas avec Pechao, tu vois, Pechao qui fonctionnait très très bien du côté de la Hollande, et quand ça arrivait.
Attention,
c'était le cas.
Allez, on enchaîne.
Qui me fait mentir, parce qu'apparemment c'est le meilleur Marseillais lors de cette
préparation. Excellent. On enchaîne. Information RMC Sport de Fabrice Hawkins. Le PSG a été refroidi, tout proche d'engager Gian Suzuki, le double champion d'Europe en titre, a finalement refermé aujourd'hui le dossier du gardien japonais de Parme. La raison, des commissions grandissantes apparemment réclamées par ses agents et qui ont été jugés trop élevés par Luis Campos et les dirigeants parisiens. Je connais les réponses, j'imagine que vous comprenez la raison, mais
ça a été
une bonne pioche.
En fait, c'est une bonne pioche. Enfin, alors, moi j'ai toujours du mal avec la gestion des gardiens. Je pense que c'est un poste très spécifique où il faut avoir une hiérarchie claire, et j'ai pas l'impression que soit vraiment la philosophie partagée par Luis Enrique. Je pense que c'était le bon moyen de geler un gardien prometteur. Après, je pense que le joueur n'était pas forcément essentiel ou considéré comme essentiel par le PSG, et c'est encore un bon moyen politiquement et du point de vue marketing d'afficher la nouvelle posture, de dire « Ah, nous, on nous la fait pas, c'est pas surpayé. » Si j'étais un peu taquin, je pense que si le joueur avait vraiment été considéré comme essentiel, on se serait arrangé avec le montant des commissions.
C'est vrai que c'est une belle propagande pour faire comprendre à tous les joueurs, ne rigolez plus avec nous. Exactement. Après, peut-être que ça enlève une épine du pied à Luis Enrique, parce qu'avec Suzuki qui serait arrivé...
Non, mais il aurait été parti, envoyé en prêt,
avec le cas Chevalier l'année dernière et celui de Safonov. Non, ça risque d'être sûrement compliqué, mais voilà, je pense que le PSG a encore une fois envoyé un message très clair, ne rigolez pas avec nous, l'institution est plus importante.
Et en plus, et peut-être que Suzuki est allé un petit peu trop vite en besogne.
Il se dirigerait peut-être vers Aston Villa, d'ailleurs.
Vous l'avez, Suzuki, vite. On parle de Suzuki, effectivement, à Aston Villa. Et on parle du coup de Dibu Martinez du côté de la Juve. En Italie, à Turin, on suivra cela. Diane Metalli, qui va prochainement rejoindre les Black Cats pour 30 millions d'euros bonus inclus. Le latéral gauche de 20 ans est formé à Toulouse, qui a disputé 30 matchs toutes compétitions confondues cette saison. On va découvrir l'Angleterre, tant mieux pour lui, mais grosse perte pour le TF et la Ligue 1, David.
Grosse perte pour le TF et la Ligue 1, tant mieux pour lui. Moi, j'aurais pensé que le TF l'aurait vendu plus cher. J'adore le joueur. Je pense sincèrement qu'il a un réel avenir international si les petits cochons ne le mangent pas, un poste qui est relativement sinistré en équipe de France. J'aime bien la destination, puisque la concurrence sera pas dingue.
Le gap est pas trop grand quand même, passer de Toulouse à la PL.
Mais c'est Sunderland qui va être européen, mais c'est Sunderland, Régis Lebris, avec une concurrence pas incroyable, puisque Masuaku est parti, Reinildo est à mon sens un peu plus limité, mais là le TFC, j'ai énormément de sympathie pour la direction et la direction sportive, mais j'espère sincèrement que cette vente va accélérer le recrutement rapidement, parce que j'adore le projet, j'aime le manager, j'aime le management, mais je n'aimerais pas que Oskou soit pénalisé dans son intégration par un recrutement trop tardif. Ouais. Là, ils ont raté des joueurs pour 1 million, 2 millions. J'ai envie de leur envoyer le message, les gars, passez la surmultipliée là.
Là, maintenant qu'ils ont récupéré l'argent de Metalli, de Cresswell, je pense qu'ils
vont. Et des Mersenne, il y a quand même 100 millions de ventes.
Je pense qu'ils vont accélérer. Mais pour revenir à Metalli, je suis d'accord, futur international français, tu verras. Et ce transfert, à mon avis, en Angleterre, en Première Ligue, va naturellement le mettre aux yeux
de Régis Lebris. Enfin, ouais, tu vois,
ouais, c'est noté. C'est un poste qui est sinistré en équipe de France.
C'est noté. Voilà,
on n'oublie pas, nous sommes le 15 août.
Exactement. Ouais, j'en ai fait des plus osés cet été, t'inquiète pas. Hein.
On a parlé de City tout à l'heure. Rodri est toujours un joueur de Manchester City pour l'instant. Avec le Barça qui a rehaussé son offre, qui a formulé une troisième offre pour le Ballon d'Or 2024. On est désormais aux alentours de 70 millions, mais le Barça campe sur ses positions et en demande 80.
J'ai envie d'arracher ce paradrap là.
Voilà.
J'ai envie de leur dire,
ça va terminer quoi, par se faire quand même.
Venez à la maison, venez dîner à la maison, asseyez-vous, c'est bon au bout d'une. Non mais là vraiment, je pense que c'est évident que ça va finir par se faire. Lui a affirmé de toute façon sa volonté de partir de Manchester City. C'est un recrutement qui a énormément de sens pour le Barça, surtout après la blessure de Frankie de Jong. Donc ça va être un très joli mariage de
Frankie de Jong. Il n'est pas blessé pour longtemps, hein, quelques semaines. Donc ouais. Mais bon, en tout cas, oui, c'est la suite logique pour Rodri qui veut absolument partir de City. Après, tu sais jamais dans le foot, hein. Si City fait une super offre, contre-offre.
Je pense pas. Non, je pense qu'ils sont résignés.
Je pense sincèrement.
Le joueur a avoué sa volonté, en fait, de rentrer en Espagne. Sûr.
Après, tu sais, lorsqu'il s'agit de faire monter les enchères quand t'es joueur, ça fonctionne aussi un peu. Ouais, comme
mais
ça.
Il a
presque utilisé le Real Madrid.
Max, il a un nom de contrat, mais justement, il y a un plafond.
Mais si t'es Barcelone et que t'es intelligent, tu laisses passer 6 mois et tu l'as libre en janvier. Mais bon, enfin voilà.
Ce sera le mot de la fin, les garçons. Maxime Chano, David Glusman, immense merci de m'avoir accompagné pour cet After Foot sur Erebon.
C'est très bonne soirée
sur RMC et retour de l'After demain à 22h, bien sûr. Salut.
RMC, l'After Foot.